Pour l'heure qui vient, asseyez-vous tranquillement. Nous contrôlerons tout ce que vous verrez et entendrez. Vous allez participer à une grande aventure et faire l'expérience du mystère avec...
Le zapping de Basile.
Le zapping de Basile.
Le zapping de France Inter.
Joyeux contribuables de France et d'ailleurs, bonjour à vous. Soyez les bienvenus dans ce nouveau zapping. Y a-t-il une vie entre les lignes des romans de Didier von Kovelart ? Cette question essentielle mérite d'être traitée avec le plus grand sérieux. C'est avec une immense vigilance que là où les réponses doivent être analysées, je répète la question. Didier von Kovelart est-il l'otage de ses chimères et esclave de ses hallucinations psychédéliques ? Non, parce que là, l'homme insiste, au point que le lecteur se dise « le von Co », soit il en sait trop et ne peut rien divulguer, soit, s'il ose dire à ses lecteurs ce qu'il sait exactement sur l'au-delà, s'il avoue, alors il n'aura d'autre choix que de nous faire disparaître. Ouais, ça serait un peu dommage. Du coup, on ne s'étonnera pas que le dernier roman de Didier von Kovelart soit à ce point Lewis Carolien. La Maison des Lumières est son dernier roman. Il est paru chez Albin Michel et il tient toutes ses promesses, à savoir que même pour ceux qui n'aiment pas lire, il reste une solution. Regardez les images, et en l'occurrence, celle du roman, le tableau de Magritte, L'Empire des Lumières, qui est au centre du récit. Amis du 7 mars, nous sommes partis pour 90 minutes destinées à ceux et celles qui ont deux oreilles autour de quelque chose.
Le zapping de France Inter. France Inter.
Didier von Kovelart, bonjour.
Bonjour.
Alors je vais tenter de résumer votre dernier roman, le propos de celui-ci, La Maison des Lumières. Alors voilà, il s'agit de Jérémy Rex. Cet homme a gagné un voyage pour deux personnes pour Venise. Il devait s'y rendre avec Candice, sa fiancée. Mais vu que leurs rapports ne sont pas au beau fixe, on va dire, c'est un euphémisme, Jérémy y va tout seul. Et là, il se rend au musée Guggenheim et se plante devant le tableau adoré par Candice et lui-même, L'Empire des Lumières, une toile de 54 signée par René Magritte. Et il est perdu dans cette contemplation de l'œuvre. Et puis là, il se passe l'impensable. Il pénètre, il rentre littéralement dans la maison qui est représentée sur la toile.
Oui, c'est un résumé parfaitement limpide.
Je dis pas plus, j'en dis pas plus. Qu'est-ce que vous auriez à rajouter ? Parce que c'est peut-être un peu succinct quand même.
C'est-à-dire que le roman est né le jour où je me suis retrouvé devant ce tableau à Venise. J'étais un peu sur le côté et il y avait un homme qui fixait ce tableau. Mmh. Et il regardait les deux lumières, les deux fenêtres éclairées en orange dans le tableau. Et il les regardait avec un immense sourire inondé de larmes. Il y avait en lui un mélange de nostalgie, mmh, d'espoir, de jubilation et d'excitation. Qui fait que je l'ai peut-être plus regardé que je ne regardais le tableau. Et je me suis dit, mais à quoi cet homme pense ? Qu'est-ce qu'il projette dans ce tableau ? Et là, ensuite il est parti. Je suis resté devant le tableau et le tableau m'a raconté la suite de l'histoire. C'est-à-dire que j'ai imaginé que mon personnage se retrouvait aspiré à l'intérieur de ce tableau qui est, comme vous le disiez, le tableau qu'aime, qu'adore Candice, la femme de sa vie. Il est là sans elle. Le but du voyage, c'était de venir voir en vrai ce tableau qu'elle n'avait jamais vu. Et voilà qu'il se retrouve à l'intérieur et qu'il va revivre leur histoire d'amour au temps où elle était extraordinaire. Pendant trois ans de bonheur fou, d'entente sexuelle absolue, de rire, de connivence. Et il vit tout cela dans comme une espèce d'accéléré, comme un montage rapide où tout à coup, une association d'idées l'amène dans un autre lieu où autre chose s'est vécu avec elle. Et puis tout à coup, il se retrouve aspiré à l'extérieur, mmh, il se retrouve couché dans le musée, il y a des blouses blanches autour de lui, il y a des appareils, il y a les fers à repasser, le défibrillateur, et on lui dit qu'il a fait un arrêt cardiaque. Voilà. Il a été ramené à la vie après 4 minutes 30 de mort clinique.
C'est ça la NDE, la Near Death Experience.
Alors à partir de là, des gens vont lui dire, vous avez fait une NDE. Sauf que la NDE, le schéma habituel où on part dans un tunnel, on rencontre des gens de sa famille, et puis il y a un aide de lumière qui vous dit « c'est pas encore l'heure, Coco, tu redescends dans ton corps et tu reviens plus tard ». C'est pas du tout ce qu'il a vécu. Lui, il s'est envoyé en l'air d'une manière absolument magique. Et bien plus que ça, c'est-à-dire il a vécu la vie puissance 1000, telle que sa vie aurait dû continuer à rester dans ce tableau. et il n'a de cesse de vouloir y retourner. Il refuse de se réinsérer dans la sous-réalité des autres. Et là, il devient évidemment une proie pour tous les marchands d'occultes, qu'ils soient scientifiques, ouais, qu'ils soient chamans ou qu'ils soient obsédés par l'invisible.
Alors, je reviens à cette anecdote qui a été donc à la source de l'écriture de cette Maison des Lumières. Et je reviens donc à ce monsieur qui était en contemplation lacrymale devant, devant le Magritte. Du coup, vous avez presque percé à jour son au-delà à lui. Mais le vôtre, Didier Van Kovelaert, c'est quoi votre au-delà ?
De toute façon, moi, j'ai projeté à l'intérieur les histoires qui me touchent. Donc, à chacun d'aller chercher ce qui est de moi ou pas à l'intérieur.
Mais vous-même, personnellement, vous avez la clé. Vous avez la clé du coffre ?
J'ai la clé de la cave. Le fruit de mon imaginaire se situe plus à la cave et au grenier que dans un coffre-fort. Je ne suis pas suisse de ce côté-là. Écoutez, je crois que tout le monde a un jour prononcé cette phrase « ce tableau me parle ». Ce qui arrive avec Jérémy, ce qui m'est arrivé à moi aussi devant ce tableau, c'est que vous avez l'impression plutôt que ce tableau vous écoute. Et vous lui racontez une histoire et il vous emmène à l'intérieur. C'est un tableau qui fait, c'est un des plus connus au monde. Il y en a eu plusieurs versions. D'ailleurs, je raconte toute l'histoire dans ce livre. Ce roman va devenir une enquête autour du tableau. Parce que pour Jérémy, qui ne rêve plus que de retourner dans ce tableau, comment peut-il y retourner ? Un chaman lui propose d'y retourner en fumant des joints, en se mettant dans un état modifié de conscience qui fait qu'il va retourner dans ce rêve. Des scientifiques lui disent, vous savez, c'est très facile de faire une sortie de corps artificielle. Il suffit de mettre un casque, comme vous en portez un aujourd'hui.
Pas tout à fait le même.
Et on vous envoie des fréquences sonores différentes dans l'oreille droite et l'oreille gauche. Et c'est leur interaction avec les fréquences du cerveau qui va provoquer cet état hallucinatoire. Et vous allez replonger à l'intérieur du pays de vos rêves.
Promis, nous allons en parler des ondes qui affectent le cerveau au cours de ce zapping. Didier Van Kovelaert, comme il se doit, vous étiez bien évidemment à l'écoute du zapping de samedi dernier sur France Inter. Aussi, il peut paraître un peu vain de prétendre vous apprendre ici que c'est la journaliste Caroline Fourest qui, il y a donc 7 jours de cela, était installée sur ce fauteuil, le même fauteuil occupé par votre corps musculeux à présent. Et tout ça pour vous dire que dans cet extrait choisi du zapping dernier, Caroline Fourest, en spécialiste de la chose, nous parlait plus de spirituel que de corporel. On l'écoute.
J'aimerais beaucoup que des gens cherchent Dieu pour en réalité sonder le fond de leur cœur. Malheureusement aujourd'hui, en tout cas ceux sur lesquels moi je travaille, ont plutôt tendance à chercher Dieu pour essayer de manipuler les hommes, pour essayer de les dominer, les monter les uns contre les autres.
Avoir la foi pour vous, c'est le début d'une sorte de dérive ?
Le problème, c'est lorsque des individus invoquent le sacré pour mettre fin à tout débat rationnel en vue d'imposer en fait leur force. Et on a drôlement besoin que ceux qui puisent dans leur foi pour défendre l'humanisme donnent la main aux autres humanistes, qui puissent dans tout simplement leur croyance dans l'être humain, pour se battre contre ces manipulateurs-là. C'est d'ailleurs le cas aujourd'hui de beaucoup, beaucoup de catholiques qui ne comprennent pas, ils sont réellement surpris par l'attitude très dure de certains intégristes que l'Église veut aujourd'hui réintégrer. Donc quand je dis religion, il y a plusieurs façons de l'entendre. Il y a vraiment le système de pensée très politique auquel veut aboutir ceux qui, pour moi, sont plutôt des intégristes. Et puis, il y a la religion comme système de vie où on applique la morale à soi-même et où, par contre, on partage avec les autres l'aspect culturel de la religion. La politique, c'est autre chose. Il faut assumer, que ce soit contre l'avortement, contre le droit des homosexuels ou pour nier la Shoah, que ce sont des propos politiques qui méritent d'être discutés et non pas sacralisés.
Et voilà, avec la suite dans les idées qui nous caractérisent, on passe de l'au-delà à la foi quelque part. Vous avez peut-être déjà une réaction à nous faire partager suite aux propos de Caroline Fourest, Didier Van Kovelaert.
Je ne peux qu'être d'accord avec ce qu'elle dit sur les intégrismes, quels qu'ils soient. J'aurais juste rappelé que le mot religion a la même étymologie que le mot intelligence, ce qui ne saute pas toujours aux yeux, vu la manière dont les gens conçoivent trop souvent la religion. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire créer des liens. Ça veut dire comprendre les liens qui existent et en créer d'autres, interconnecter tout cela. L'être humain, son milieu naturel, les animaux, le visible, l'invisible, les autres religions entre elles, créer des liens. On est sur Terre pour créer des liens, pour transmettre de l'harmonie. Je pense que l'harmonie est plus intéressante que le conflit et fait plus progresser les choses. Et puis, comprendre l'autre. Moi, je suis romancier pour me glisser dans la tête des autres, dans leur cœur, essayer de comprendre comment ils fonctionnent de l'intérieur. Et donc, par résonance, d'essayer de voir un peu plus clair en moi.
Vous savez qu'elle est contestée, hein, l'étymologie de religion. Certains disent que c'est relire. Lire et relire.
Absolument pas. Religere, pardon. pardon d'être un peu intégriste et fondamentaliste là-dessus, mais c'est relier les choses entre elles.
Je ne fais que rapporter ce que j'ai certainement lu quelque part. Du reste, on ne va pas faire ça au bras de fer.
Non. Mais bon, si on plonge dans la date des mots au moment où ils apparaissent, voilà. Et puis, je trouve que, justement, c'est un peu dire relire la religion, relire toujours, ou comme manger la Torah, comme disent les Juifs. Ça se déguste toujours. C'est aussi une option religieuse intéressante, mais tout ne se résume pas à ça.
C'est assez doux, vous le verrez un jour, d'être l'ombre de soi-même, de se dire que les autres n'ont pas réussi à vous modifier. La phrase vous appartient, Didier von Kovelaert. Dans ces autres, il faut y voir quoi ? Il faut adjoindre, pourquoi pas, tous les hommes d'église, les représentants de la foi, et pourquoi pas la religion, du coup ?
Vous savez, il y a des gens merveilleux chez les religieux et chez les athées. Il faut savoir ce qu'on cherche. Est-ce qu'on cherche un code de lecture facile qui dit voilà où sont les bons, voilà où sont les méchants, voilà où est le vrai Dieu, voilà où est la vérité, bon. Ou est-ce qu'on cherche s'enrichir au contact de gens formidables? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Je n'ai aucune étiquette, quelle qu'elle soit, parce que les étiquettes, pour moi, sont biodégradables par essence. Et la vie et les rencontres doivent être plus fortes. Ça ne veut pas dire qu'il faut épouser les points de vue de tout le monde. Ça veut dire qu'il faut ne pas hésiter à rejeter même les gens de son camp lorsque vous avez l'impression qu'ils déconnent. Mmh. Et voilà, je suis... le message d'amour de la chrétienté est exceptionnel parce que c'est le seul qui dit « il faut aimer son ennemi, c'est facile d'aimer ses amis ». C'est là, il y a l'innovation extraordinaire de Jésus. Elle est là. Quand on voit ce que l'on fait au nom du message du Christ, souvent, il y a de quoi frémir. Mais bon, c'est vrai pour toutes les autres religions. Donc, à un moment donné, je pense qu'il vaut mieux enlacer un arbre et prier en se demandant ce qu'il vous dit, comment vous pouvez l'aider, ce qu'il peut vous apporter. Et là, vous sentez vraiment que vous faites partie de tout un ensemble qui est la création et qui n'est pas besoin d'être un créationniste qui nie l'évolution. Vous sentez au contraire que la vie même procède de l'évolution, que nous sommes là de manière transitoire, nécessaire et souvent facultative quand on voit ce qu'on fait sur Terre.
D'un mot, vous croyez au miracle ?
Le mot croire, j'ai constaté des miracles. Scientifiquement. J'ai travaillé beaucoup avec des médecins sur le cas des miracles de Lourdes, par exemple. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui pose des questions. Ce n'est pas les réponses en elles-mêmes, c'est l'approfondissement des questions et l'ouverture du champ de réflexion. Je n'ai pas besoin de croire pour me rassurer. C'est une infirmité peut-être, mais je ne connais pas la peur. Je n'ai pas peur de la mort, j'ai un peu peur de la connerie parfois, mais parce que là on peut, mais on peut faire des choses.
Elle est aussi définitive que la mort. De la musique maintenant, et comme disait monsieur Boris Vian, la vie vaut-elle d'être vécue ? L'amour vaut-il qu'on soit cocu ? Je pose ces deux questions auxquelles personne ne répond. Et je bois systématiquement. Alors allons-y, quatre fois non. Non, 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 c'est mieux sec et ça se boit Q-Celt.
Téléphone encore, ivre mort au matin, car aujourd'hui c'est la Saint-Valentin et je me remémore notre nuit très bien, comme un crabe déjà mort. Tu t'ouvres entre mes mains, ceci est mon vœu, ceci est ma prière, je te la fais et te genoux à terre. Non, 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 je ne suis plus sous, un peu à bout, c'est rien. Je crois en toi, c'est tout. Allô, oui, c'est moi encore. Écoute-moi bien, moi la nuit quand je m'endors, je t'imagine très bien perdu sous d'autres corps, me réclamant en vain, bouffé par les remords de la Saint-Valentin. Ceci est mon vœu, ceci est ma prière, je te la fais et te genoux à terre. Un peu à bout, c'est rien. Moi je veux de toi, c'est tout. Mes draps raccroche pas encore. Écoute-moi bien, moi je voudrais qu'une fois encore tu me prennes pour quelqu'un et que tes yeux brillent si fort comme moi quand je suis plein, bouffé par les remords de la Saint-Valentin. Ceci est mon vœu, ceci est ma prière, je te la fais et tes genoux à terre. Je ne suis plus sous, un peu à bout, c'est rien. Moi je crois en toi, c'est tout. Non, 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 non. Je ne suis plus sous, un peu à bout, c'est rien. Moi je veux de toi, c'est tout.
Pénétrer l'empire des Lumières, le tableau de Magritte, est une chose, mais faut-il encore le prouver, or il reste là une solution, à savoir les ondes. C'est en tout cas ce qui est dit dans le roman de Didier von Kovelart. Il s'en explique dans quelques minutes, mais maintenant nous allons nous enduire notre corps d'une bonne couche de parano. Explication, il était 7h30, Agnès Bonfillon présentait son journal avec entre autres un reportage signé Samuel Aslanoff, le témoignage d'une certaine Evelyne, une femme trop réceptive, on peut même dire carrément allergique aux ondes électromagnétiques. Et puis là, sans prévenir, ce même jour, c'est Isabelle Giordano qui recevait un aéropage de spécialistes pro et anti-antennes relais. On va commencer par la première partie qu'on appellera la controverse et puis la seconde partie du dossier, c'est cet extrait de service public. Et là, je vais vous demander d'être attentif parce que c'est une discussion qui brouille l'écoute.
La vie d'Evelyne a basculé en août 2007. En rentrant de vacances, elle commence à ressentir des picotements sur la peau et de très fortes migraines ophtalmiques. Elle découvre alors, juste devant sa fenêtre, six nouvelles antennes relais. Elle se souvient notamment d'un coup de fil passé à la Pitié-Salpêtrière.
J'explique évidemment au standard, champ électromagnétique, les trucs, les brûlures, le machin. Donc il y a eu un grand blanc. Et là, après, elle me dit « je vous passe le service ». Et là, je suis tombée, service psychiatrique. Elle m'avait passé au psychiatrique. J'ai dit, bon, si je ne veux pas me retrouver avec la camisole, je crois que non.
Dans son nouvel F2, elle repeint le sol, les murs et le plafond, avec une peinture qui stoppe le rayonnement des antennes relais et du Wi-Fi. Là, enfin, les symptômes diminuent. Mais dès qu'elle franchit la porte, les ennuis recommencent.
C'est un handicap parce que je ne peux plus ni prendre un TGV, parce qu'à l'intérieur, vous avez tous les gens avec les portables. Je vais quelque part dans un bureau, il y a du Wi-Fi. Au bout de 2 jours, j'ai plus de cerveau. Et tout est comme ça.
On vient nous dire que l'incertitude sur l'innocuité des ondes des antennes relais, donc la non-dangerosité des ondes des antennes relais, est constitutive d'une angoisse. Je sens qu'en face, on s'énerve.
Aujourd'hui, non, les discours théoriques sur le progrès et le principe de précaution,
ça dépend de la question. On parlait des antennes, on ne parlait pas du téléphone.
Il y a eu effectivement des antennes installées, elles ne fonctionnaient pas.
C'est le problème de l'indépendance de l'expert.
Pour 100 000 abonnés portables,
pour avoir la possibilité de faire de la radio avec Isabelle Giordano, ce qui est un plaisir, évidemment.
Alors pourquoi avoir choisi de réécouter ces deux extraits piochés sur l'antenne de France Inter cette semaine? Bon, d'abord parce que l'affaire des antennes relais a fait grand bruit cette semaine. On vient en effet d'apprendre que l'OMS a déclaré, je les cite, qu'il n'y a pas de base scientifique permettant de relier les symptômes de l'hypersensibilité électromagnétique à une quelconque exposition au champ électromagnétique. Donc ça, c'est la première chose. Et puis aussi parce que dans votre roman, Didier von Kovelart, il faudrait que vous nous présentiez en fait ce monsieur Philippe Necker pour que nous comprenions exactement le contexte.
Alors c'est quelqu'un qui a travaillé au CNRS, qui est un ingénieur spécialisé dans les mesures les mesures hertziennes, les mesures d'ampérage, qui justement peuvent induire des problèmes par pollution électromagnétique dans le cerveau ou le comportement des gens. Alors, ce sujet sur lequel je me suis beaucoup penché, c'est très difficile, évidemment, de trancher, de dire c'est dangereux pour tout le monde, parce que rien n'est dangereux pour tout le monde. Ce qui est certain, c'est l'accumulation des pollutions électromagnétiques. Bon, tout le monde n'a pas 7 antennes relais en face de chez soi, mais beaucoup de personnes dorment pas loin d'une machinerie d'ascenseur. Derrière la cloison du lit, il y a peut-être un ordinateur, un cul d'ordinateur par où il fuit, ou le micro-ondes d'une cuisine, et plus le téléphone portable qui est le téléphone mobile qui est exactement à la limite des micro-ondes sur le plan de l'émission. Voilà, évidemment, et plus la Wi-Fi, tout ce qui est invisible. Alors bien sûr, on peut dire c'est de la parano, j'ai peur de ce qui est invisible, mais on voit très bien sur les rats en laboratoire les effets. Je conseille aux gens d'ailleurs d'aller plutôt lire les études en Belgique, d'aller par exemple sur teslabel.be ou études et vie, études avec un S.
On va le mettre sur le site de l'émission. Voilà. Ouais.
Parce que le grand problème, c'est que les enjeux économiques sont gigantesques. Je ne vais pas dire que tous les experts sont corrompus, mais il y a eu quand même des exemples et il est très facile de refuser une étude que vous, grande entreprise, vous avez commandé à un laboratoire. On refuse l'étude parce qu'elle va dans un sens qui n'est pas le vôtre et elle ne sera pas publiée. Donc après, on dit, voilà, les experts n'ont rien trouvé parce qu'on est propriétaire de l'étude qu'on a commandée. Il y a eu des exemples en Belgique, il y en a eu en France. Donc, précaution, ouais. Toujours.
Ça commence à ressembler à l'amiante, moi, je trouve, cette histoire.
Oui, ou au mercure.
Oui, voilà, il faut attendre que les morts deviennent des statistiques avant véritablement de réagir.
Vous savez, l'exemple, mais en fait, malheureusement, on ne procède jamais que de cette manière. C'est-à-dire, à un moment, on a interdit les plombages dans la bouche quand il a été certain que le plomb était vachement dangereux. On a mis quoi à la place ? Du mercure, qui est connu pour sa totale innocuité, n'est-ce pas ? Alors aujourd'hui, on dit, faites attention à ce danger, enlevez tout le mercure, parce que le mercure est le seul métal qui génère des gaz en plus. Et il y a des choses terribles qui se passent dans la bouche des gens. J'en parlais avec ma dentiste hier. C'est assez effrayant. Ouais. Alors on dit aujourd'hui, retirez les amalgames, tout ça, mais on continue d'en poser. Voilà, on procède par... vous avez raison, l'amiante, c'était totalement sans danger comme matière. Et puis quand on a dit, oui, c'est dangereux, il faut l'enlever... On a oublié une chose, c'est que l'amiante est surtout dangereuse quand on l'enlève et qu'on la respire. Et que le fameux cancer du franc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un ouvrier qui a travaillé sur le paquebot France qui a échappé au cancer de l'amiante.
Confirmez-moi ce que vous écrivez, page 43 de La Maison des Lumières. Depuis l'invention des portables, on ne trouve plus un fantôme en Écosse.
Alors ça, j'étais tombé sur cette étude un jour qui m'avait bien fait rire et puis qui est vrai en plus. Enfin, qui est vrai, ça sous-entend qu'il y a des fantômes, mais on s'est rendu compte pourquoi est-ce qu'il n'y a plus d'observations. Et par des mesures, des spécialistes comme mon personnage Philippe Necker, qui sont allés étudier les perturbations hertziennes, les perturbations des ondes dans les endroits où il y aurait ces phénomènes, eh bien... quand il y avait un portable, on captait le 117 Hz du portable et à la place des changements de fréquence habituelle. Alors voilà, toutes les conclusions sont permises. Mais c'est-à-dire que, conclusion, le portable, le téléphone n'est pas dangereux que pour les vivants.
Oui. Vous faites flipper, là. Nonobstant, nous y dirigeons, l'émission quotidienne que vous présente Yves Calvi de 17h à 17h45. Et l'Yves en question, ce Calvi-là recevait cette semaine Adamo. La mort du père, la famille, l'identité. Adamo touchant, bouleversant. Bref, chez Calvi, il était fort, Adamo.
Peu après le décès de votre papa, vous avez récupéré toute la famille, c'est-à-dire dans tous les sens du terme. Vous qui êtes l'aîné, je dirais historiquement, hein, on comprend que vous avez pris conscience que maintenant c'était sur vous que ça reposait, qu'il y avait 7 bambins de tous âges, que vous deveniez de fait le pater familias, sauf que le pater familias, il était en train de faire le tour de la terre pour sa carrière, pour faire vivre sa famille.
Je me suis rendu compte, bien sûr, de la difficulté de la tâche et je ne pourrais pas l'assumer seule. Ma mère était tellement bouleversée, elle s'est un peu cloîtrée en elle-même. Donc j'ai essayé de faire appel à des personnes qui auraient pris l'éducation de mes frères et sœurs en main. Et il y avait, de la part de mes frères et sœurs, une espèce de rejet de quelque autorité que ce soit, en dehors de celle du père qui n'était plus là. Donc, professionnellement, mon père a eu l'idée d'amener mes frères et sœurs sur quelques plateaux de télé. Mais après, je me suis rendu compte que on a donné à mes frères et sœurs une fausse idée de la vie. Et puis, à la disparition du père, on a dû leur faire comprendre que ce n'était pas ça vraiment la vie. Elles ont eu des difficultés à retrouver une vraie identité, oui.
Didier Van Kovelaert, j'aimerais que vous nous parliez un instant de votre père, cet homme qui est au cœur de votre récit, le récit Le Père Adopté, ce roman que je ne saurais que trop recommander, qui a reçu d'ailleurs, notons-le, le prix Marcel Pagnol et le prix Nice Baie des Anges. Cet inventeur de la voiture à phare à luciole, cet esprit libre qui avait besoin de quelqu'un pour enfiler ses chaussettes. De quelle manière il vous accompagne aujourd'hui, votre papa ?
C'était un vivant assez épatant et c'est un mort assez formidable. C'est un immense privilège d'avoir eu pour père quelqu'un dont, lorsqu'on évoque le nom, il y a des sourires qui s'allument tout autour. Mmh. Il y a quelqu'un qui a tellement fait rire les gens autour de lui que, quelques années après sa mort, c'est toujours ce qui prévaut. On se raconte ses blagues, ses gags, ses exploits, ou ses excès, cette force vitale. Qui continue à titre posthume, est une source de vitamines formidable. C'est vraiment tout ce que je peux souhaiter à ceux qui ont perdu des êtres chers, c'est d'être accompagnés de cette manière. Et là, il n'est même plus question de contact avec l'au-delà, tout ça, c'est pas ça, c'est ce qui reste dans le regard de ceux qui ont connu un être et qui vous renvoie une image qui vous fait du bien et qui leur fait du bien. C'est comme ça que quelqu'un ne meurt jamais, en fait. Donc voilà, mais je sais, on avait discuté avec Adamo pendant les émissions et on était très proches de...
Vous dites de lui, vous dites de votre père qu'il a réussi ce que peu de pères considèrent comme leur objectif ultime, à savoir être aimé comme un maître et comme un faire-valoir.
Oui, il était à la fois, évidemment, c'est lui qui m'a appris l'imaginaire, le rire, la gestion de la douleur aussi. C'est quelqu'un qui a souffert toute mon enfance. Et,
la fameuse anecdote de l'épine dans votre pied et l'opération sans anesthésie. Finalement, c'est le rire de votre père provoqué.
Ah oui, il fallait m'opérer d'urgence contre une gigantesque infection au pied suite à une épine. Il n'y a pas le temps de m'anesthésier. Et il me racontait des histoires pour me faire rire. Et c'est là que j'ai fait cette découverte extraordinaire à 6-7 ans que le rire arrête la douleur. Sauf que le chirurgien n'était pas content du tout. Il disait, arrêtez de le faire marrer, je ne peux rien faire, il bouge.
La chanteuse se fait appeler Cat Power, soit le pouvoir du chat, et sa chanson à elle, c'est The Greatest, soit le meilleur. Alors j'ai fait le job, il en résulte que le meilleur pouvoir du chat, c'est d'être nyctalope. Et là, c'est vrai, ils ont de la chance, les chats. Eux, au moins, ils peuvent lire la nuit. A tout de suite avec Didier Van Kovelaert, c'est le zapping de France Inter. Cat Power,
The Greatest, le meilleur.
Quatre fois par semaine, tu as le temps, ça va?
Oui.
Je sais pas, je te tutoie, je sais pas si on peut se tutoyer, mais allons-y, hein, allons-y gaiement.
Le zapping de France Inter. France Inter.
Joyeux contribuables de Français d'ailleurs, merci de nous rejoindre. C'est la deuxième partie du zapping de France Inter. La Maison des Lumières, c'est le tout dernier roman de Didier Van Kovelaert. Le livre est paru chez Albin Michel. Et sans trahir ni la trame, ni la fin du récit, surtout pas, je dirais qu'il y a quand même un poil de Orson Welles dans ce qui pourrait être sous-titré le portrait de Jérémy Rex. Il y a un petit peu ça, il est happé par cette toile de René Magritte dans ce musée.
Le livre raconte comment un tableau peut changer un homme. Mmh. Mais changer un homme, ça peut vouloir dire aussi l'aider à redevenir ce qu'il était ou agir comme le révélateur qu'il n'a jamais reçu, en l'occurrence dans son histoire d'amour. Quand une femme vous quitte, ce n'est pas forcément pour quelqu'un d'autre, ce n'est pas forcément parce qu'il y a eu de l'usure entre vous, c'est aussi qu'il faut peut-être vous aider à franchir une étape supérieure et peut-être que la distance qu'elle a prise est la seule chose qui peut vous aider. Je crois qu'il faut savoir que faire d'un amour, y compris lorsqu'on croit l'avoir perdu. Et le livre part sur la détresse d'un homme qui pense qu'il a tout perdu et qui va découvrir qu'il est en train retrouver lui-même et c'est le seul moyen pour lequel il va, dans la réalité, retrouver cette femme.
Très bien, vous avez été juste ce qu'il faut dissert à point. Comme vous l'écrivez d'ailleurs dans ce roman, après tout, ce n'est pas le créateur qui importe, mais bien la création. Et là, vous le prouvez pendant toute la durée du roman, paru chez Albin Michel, je le répète, La Maison des Lumières.
Le zapping de France Inter.
Didier Van Kovelaert, comment allez-vous pour cette deuxième partie?
Bien, bien. Bon.
Vous racontez que votre enfance a notamment été bercée par l'écoute de France Inter et par celle de, notamment encore, Radioscopie, l'émission de Jacques Chancel. Alors, vous n'accusiez à l'époque que 8 printemps, après l'écriture de votre premier roman, l'histoire d'un serial killer en culotte courte. Vous imaginiez déjà les réponses que vous pourriez éventuellement donner à Chancel en cas d'interview.
Je m'entraînais voilà. Pour ne pas avoir l'air bête.
Et donc, je reprends à mon compte l'une de ces questions de l'homme de Radioscopie qui a d'ailleurs fini par vous poser la question en question. Et là, c'est moi qui vous la pose. Didier Van Kovelaert, comment devient-on Didier Van Kovelaert? Ça vous fait marrer. Attention, parce que là, je lis la réponse. Je l'ai dans le roman, le père adopté. Alors, donc,
et j'ai pas révisé avant de venir. J'étais plus sérieux à 8 ans.
Alors.
Lisez-moi la réponse parce que je l'ai un peu oublié.
C'est vrai? Je vais vous allez la lire, tiens. Alors, vous remplacez le Jacques par Mathias, évidemment. Alors, je repose la question, d'accord? Allez, 3, 2, pouf, pouf. Didier Van Kovelaert, comment devient-on Didier Van Kovelaert?
Eh bien, Mathias, c'est long. Il faut d'abord connaître l'injustice, celle dont on est la victime et celle dont on est la cause, même si on ne l'a pas fait exprès. Bah oui, ça racontait mes turpitudes d'enfant.
Je laissais volontairement blanc après, parce qu'il faut que ça gamberge, que ça se mette en place.
Complètement. Hein. C'est-à-dire que là, non, j'ai eu la chance d'être prétentieux très tôt. J'ai fait ma crise de grosse tête à 8 ans, ce qui fait qu'aujourd'hui, tout va très bien. Et il faut bien prévivre les choses avant qu'elles arrivent. Il faut se sentir très fier d'être le premier avant d'avoir tenté le concours.
Et comment ça vous a passé d'ailleurs, cette boursouflure de l'ego?
Au 15e refus d'éditeur entre 8 et 12 ans, vous savez, l'ego réduit comme les têtes chez les Jiveros. Hein. Donc, mais c'est très bien. Ce qu'il faut, c'est avoir suffisamment de distance, d'acharnement, d'orgueil aussi, pour à un moment donné, oublier l'échec, dire « Ok, ça c'est derrière, mais ce que je suis en train de faire là, c'est génial. » Jusqu'à ce que cette chose-là en question devienne caduque elle aussi, et la promesse du génie soit toujours devant vous. C'est une raison d'avancer, cette illusion-là.
C'est amusant chez vous, chez les Van Kovelaert, donc votre père invente des modèles de voitures miniatures, je le disais, avec des lucioles à l'intérieur.
Il grattait les ailes des lucioles pour que les phares des voitures s'allument la nuit, et il vendait ça à l'école. à ses copains et aux parents, et il sait vivre comme ça, comme il était pupille de la nation, il faisait vivre sa mère veuve de guerre avec ça.
Et son père à lui, donc votre grand-père, inventeur très tôt aussi des briques réfractaires.
Ouais, ça je suis très fier.
Premier roman à l'âge de 8 ans, vous êtes des précoces dans la famille, c'est amusant.
Oui, enfin, je suis moins inventeur, je suis pas, et ça c'est perdu quand même, quoi. Je suis pas, c'est pas en phase ascendante.
Ah oui, d'accord. Là, maintenant, vous êtes devenu modeste. Vous avez plus du tout.
C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais non, parce que j'adore faire de la mécanique, mais bon, je suis pas terriblement doué, quoi. Mais alors, ma fierté quand j'arrive à réparer un moteur est incommensurable avec la fierté d'artisan quand j'estime que j'ai construit une belle phrase.
Vous avez des enfants ?
Hein ?
Vous avez des enfants qui sont aussi précoces ou...
Oh bah tout ça se perd. Non, non.
Ma bonne dame.
Non, non, ça n'est pas dans l'ascendance.
Qu'est-ce qu'il reste de l'enfant de 8 ans que vous étiez aujourd'hui, maintenant ?
Ah bah, il est toujours aux commandes de l'adulte que je suis devenu. Il indique la boussole. Voilà, j'ai absolument pas le syndrome de Peter Pan. J'ai pas besoin d'avoir peur de vieillir pour vivre au jour le jour une vie intéressante. Mais je crois que c'est la peur qui fait vieillir, en fait. Et surtout, en l'occurrence, la peur de vieillir, la peur de changer. Non, je crois plus aux vertus du surmenage qu'à celles de l'angoisse stérile.
Ah oui. Et vous êtes
en termes de conservation, quoi.
Non, parce que vous
pour garder l'élan vital. Je vais pas garder, m'en fous des rides. Mmh. Je suis content de mes rides. J'ai des rides de rire, de soleil, plus que des rides d'amertume. Donc, j'ai pas honte de les montrer. Voilà.
Ouais, vous êtes aussi un homme qui travaillait pas moins de 15 heures par jour, ce qui semble.
Pas tous les jours, mais oui, je peux travailler très tôt.
Vous êtes un bosseur quand même. Oui.
Très tôt le matin et continuer comme ça très longtemps si je ne suis pas dérangé. Oui.
On peut y voir comme une sorte aussi de médication. C'est quelque chose que vous prenez. Vous n'avez pas le choix. Il vous faut travailler aussi dur pour échapper à quoi ?
Au reste. Non, c'est-à-dire que quand on n'a pas l'excellente excuse de fermer sa porte à la sous-réalité dans laquelle on est bien obligé de s'ébattre le reste du temps et qu'il faut reboucher son stylo pour écrire des lettres, payer des chèques. Voilà, tout ça, cette fausse réalité. Quand mon personnage, qui tout à coup, dans la Maison des Lumières, est projeté à l'intérieur de ce tableau, retrouve dans un autre espace-temps l'essentiel de sa vie amoureuse, de ses rêves, de tout ça, évidemment, ensuite, quand il refuse de se réinsérer dans la fausse réalité des autres.
Ah ouais, il veut y retourner. Hein,
oui, simplement, au début, il se plante en disant comment retourner dans ce tableau. Or, le rêve, ça sert à changer la vie, pas à fuir la réalité. Donc, il va découvrir au bout d'un moment le sens profond de cette aventure qui lui est arrivée pendant un accident cérébral. Qu'est-ce que la vie vous demande, en fait ? Elle vous demande de modifier les choses autour de soi pour devenir vraiment, vraiment soi-même, pour faire quelque chose de sa vie, de se dire « j'ai pas perdu mon temps, j'ai peut-être pas été nécessaire ni suffisant, mais j'ai peut-être été un peu utile ». Voilà, alors au début, il va trouver la science, parce que la science qui vend du rêve, aujourd'hui, ça existe. On parlait des fréquences sonores tout à coup. Bah oui, il y a des fréquences sonores qu'on vous fait entendre dans le cerveau et qui vous lancent dans des tripes extraordinaires où il va retrouver de manière artificielle les conditions de son expérience de rêve à l'intérieur du tableau. Et puis, il va découvrir finalement que ce qu'il appelle dans le tableau, c'est cette maison. Est-ce que cette maison existe dans la réalité ? Est-ce que quelqu'un l'attend à l'intérieur ? Qu'est-ce qu'il doit faire pour, dans la réalité, à partir de cette intrusion via le rêve ?
Non, dites pas trop. Et puis, il y a un autre événement d'importance dans votre vie, que dis-je ? Un événement fondateur. Vous avez fait, tenez-vous bien, mesdames, messieurs, vous avez fait, Patrick Didier von Govlart, votre service militaire avec Patrick Bruel.
Oui.
Et ça ?
Là aussi, je ne m'en suis jamais remis totalement.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. La vie a dû vous paraître bien fade une fois que vous en êtes revenu.
Non, c'est-à-dire que c'est grâce à cela que j'ai la seule décoration de ma vie, qui est une décoration militaire. Je suis médaillé du 1er régiment du train pour fait théâtral. Puisque, avec Bruel, nous avions monté et réalisé le spectacle de Noël pour les enfants de gradé, qui était la priorité numéro un du régiment. Mmh. Et voilà, donc ça, c'est des souvenirs qui marquent à vie. C'est pour ça que quand on me dit « pourquoi vous n'avez pas la Légion d'honneur ?», je dis non. Mérite agricole, oui, parce que j'ai beaucoup de mérite avec mes arbres et mes plantes pour, mais non, quand on a eu une décoration militaire pour mérite sur les planches, pour un spectacle de théâtre, c'est dur de trouver mieux.
C'est là qu'on se dit que le portable a été inventé trop tard, parce que s'il y avait une petite trace filmée de cette prestation théâtrale, j'aurais demandé à voir. Nous sommes maintenant à l'écoute, voire à la réécoute d'un fragment du journal de 8 heures présenté par Fabrice Drouel, et donc cette semaine sur Inter. En substance, pour introduire ce qui suit, vous allez comprendre combien le mot « introduire » est ici employé à dessein, il s'agit d'un retour sur toile. Nous sommes en 1866, Gustave Courbet peint « L'origine du monde ». Le reste appartient à Thierry Savatier, c'est un spécialiste de l'origine du monde, de la toile, et l'homme en est persuadé, le modèle du tableau « L'origine du monde » serait gravide. Explication.
C'est très sérieusement et observation de médecins à l'appui que Thierry Savatier affirme que le modèle de l'origine du monde était enceinte. On savait déjà qu'il est impossible de reproduire la position du modèle, le torse par rapport à l'abdomen, puis la cuisse par rapport au corps, empreinte des angles qui obligeraient à se déboîter le fémur. Mais Thierry Savatier va plus loin.
Sur la partie gauche du modèle, on a un renflement de l'abdomen, une boursouflure, et que cette boursouflure pouvait tout à fait être interprétée comme un utérus gravide, c'est-à-dire en fait que le modèle aurait été enceinte d'environ 6 mois. La morphologie du sexe peint par Courbet laisse aussi à penser que le modèle en aurait été à sa première grossesse, et alors là, on ne peut évidemment pas s'interdire de penser que Courbet aurait pu vouloir réaliser un portrait d'Ève, tout simplement, qui était à la fois à l'origine de l'humanité et pourquoi pas à l'origine du monde. Ça pourrait expliquer en partie le titre énigmatique du tableau.
Reste à savoir qui est ce modèle. Pour Thierry Savatier, Courbet a probablement peint d'après un tirage photo et ne se serait donc pas contenté du réalisme du cliché.
C'est vrai qu'à l'écoute de ce que nous venons d'entendre maintenant, il m'est venu à l'idée que le véritable blasphème serait que l'origine du monde représente non pas Ève, comme le dit Savatier, mais bien Marie. Et là, véritablement, on mettrait les deux pieds dedans.
Hein. Alors, c'est drôle que vous parliez de ça, parce que j'ai connu un gynécologue amateur d'art qui passait son temps justement à aller vérifier si les femmes étaient enceintes ou non sur les tableaux. Et il a notamment, c'est un tableau très particulier, c'est l'image de la Vierge de Guadalupe au Mexique, et lui avait certifié qu'elle était enceinte, que cette Vierge était enceinte de 3 mois et demi. Il avait déjà dans les années 90 étudié le tableau de Courbet, il est arrivé aux mêmes conclusions. Et j'aime bien quand on nous raconte la vie secrète des tableaux, comme vous savez, certains disent que Mona Lisa, la Joconde, est un cadavre, que le fameux sourire, tout ça, c'est ne peut être obtenu que dans une phase de la...
On a aussi également dit qu'elle pouvait être enceinte et même que ce serait Léonard travesti. Alors on a tout dit sur...
Voilà, alors j'aime bien quand les spécialistes arrivent et puis ils ont une grille de lecture particulière et des éléments aussi qui peuvent leur donner raison et des preuves. Mais c'est vrai que chacun cherche midi à sa pendule, mais c'est pas pour ça qu'il ne trouvera pas la bonne heure.
Pourquoi avoir choisi précisément Magritte et pourquoi ce Magritte-là, l'Empire des Lumières précisément, qui illustre donc votre dernier roman?
Alors, en fait, je ne l'ai pas choisi puisque je me suis retrouvé un peu comme mon personnage à Venise. Et je suis allé dans le musée Guggenheim, sur le Grand Canal, et je ne savais pas qu'il y avait là l'une des versions, la plus grande des versions de l'Empire des Lumières, qui par ailleurs est très souvent à côté de moi quand je travaille, quand j'écris, la reproduction. Et ce tableau, moi aussi, je l'ai aimé pas en reproduction, et là, je tombe devant lui en réel, et je ne savais pas qu'il était là.
C'est amusant, quel format fait-il? C'est vrai, je ne m'étais pas posé la question.
Celui de... vous l'avez dans le livre, je ne le sais pas par cœur, je n'ai pas révisé, je vous dis, je suis libre aujourd'hui.
Vous voyez, j'ai pas...
Il est la version de la collection Guggenheim à Venise, est la plus grande. Il fait 193 par... c'est un très grand tableau.
D'accord.
Et il en a peint près de 10 variantes, suivant les experts qui sont chez des particuliers ou dans d'autres musées. Ce qui fait que lorsque Jérémy veut retourner dans le tableau, est-ce qu'il faut retourner dans ce tableau-là ou dans d'autres pour retrouver la femme de sa vie, ou est-ce qu'il faut retourner dans la réalité? Mais c'est vrai que les histoires que nous racontent les tableaux, c'est une source d'émerveillement. Et et je vois les réactions depuis que le livre est sorti, c'est incroyable. C'est un fantasme de tout le monde, ça. Et quand en plus on va retrouver une chose aussi fascinante et remuante que ce que va découvrir Jérémy. Mais je ne pensais pas qu'entrer dans un tableau était un fantasme aussi répandu, même au-delà du fantasme, on a l'impression que c'est naturel, que quelque chose nous attend de l'autre côté. Il suffit de trouver comment franchir cette barrière.
C'est amusant ce que vous dites, parce que ça ne se produit pas du tout avec la photo. C'est vraiment quelque chose qui est très caractéristique de l'œuvre picturale.
Et pourquoi ? Parce qu'il y a l'intervention de l'artiste. Et le rôle de l'artiste, c'est d'ouvrir des mondes parallèles, des issues de secours pour les existences brisées ou les destins qui ne mènent à rien. Mm-hmm. C'est ce que ressent mon personnage. C'est pour ça qu'il entre dans ce tableau, parce que la vie derrière lui ne veut plus de lui. Il faut bien aller quelque part. Il y en a qui se jettent par les fenêtres, lui il se jette par les fenêtres de ce tableau, et ce qu'il projette à l'intérieur du tableau va l'attirer derrière la toile.
Si ce n'avait été l'Empire des Lumières, vous avez, j'allais dire un numéro 2, mais enfin un autre tableau comme ça qui vous aurait attiré.
Il y a d'autres tableaux qui déclenchent des rêves. C'est vrai que Magritte est un très grand déclencheur de rêves, justement, parce que c'est par ailleurs un hyper réaliste. C'est un surréaliste hyper réaliste. C'est pour ça qu'il avait d'ailleurs été exclu du surréalisme par Breton à un moment donné, pour cause de collaboration.
Oui, c'est ça, de trahison. Oui,
donc, collaboration. Oui. Et voilà, c'est quelqu'un qui tout à coup vous donne les clés du monde parce qu'il fait des serrures précises. Mais des serrures dans le trou desquelles, si je puis dire, on découvre des choses extraordinaires. Du domaine du rêve ou de la vraie réalité, parce que l'artiste est là aussi pour nous faire douter de ce que nous croyons la réalité, pour que nous cessions de nous y soumettre et pour qu'on essaye d'autres choses.
Qu'est-ce qu'on doit comprendre dans vos propos ? C'est que l'art abstrait, de fait, devient hermétique ?
Non.
On ne peut pas se promener dans un tableau d'art abstrait, pourtant si.
Si, bien sûr.
D'accord, très bien. Non, parce que vous parlez du figuratif et de la précision, justement, de Magritte.
Ah non, mais Magritte est à la fois totalement abstrait et totalement concret. Parce que, justement, il y a cette irruption du surréel. Mais je fais la même chose dans mes romans. Il y a, enfin, toute proportion gardée, il y a un décor, des comportements totalement réalistes. Et à un moment donné, il y a un décalage qui fait que vous quittez la vitesse de défilement habituelle des gens autour de vous, des sentiments autour de vous, et vous respirez ailleurs, autrement.
Mmh. C'est même devenu d'ailleurs votre signature, votre style. On retrouve toujours comme ça l'autre, l'envers du décor.
Mais là encore, c'est pas pour quitter la scène et aller voir l'envers du décor, c'est pour rester sur scène tout en sachant ce qu'il y a derrière le décor, ou tout en l'imaginant, tout en projetant ce qu'on a envie qu'il soit derrière le décor.
Dis donc, comme joliment ces choses-là sont dites. Merci beaucoup, Lydia. Messieurs, si votre petite dernière n'a pas de bonnes notes à l'école, voici un excellent moyen de vous consoler. Dites-vous qu'au moins la petite n'a pas ramené Pete Doherty à la maison. Je sais que ça va déjà mieux. C'est vrai que le Doherty, on préfère l'avoir en disque plutôt que pour gendre.
With your famous auntie, Arthur's trousers on. We were slapped by that slapper. Now we all laugh. But she loved the loudest song in 93. Could charm the bee's knees off the beat. Cheeky, you'd say. And we all fell around. Rolling. So she is safe. We all fell apart. Rolling around the playground in the 94. We all sang, skipping and dancing hand in hand. Yeah, it was all the boys together and all the girls together. She's the last dog.
knows the Rodneys from the Stanleys, the Kappas from the Reeboks. And a tip from the Tat, and Winston's from her Enoch. It's fuzzy daylight, coming out, coming alive. Around the snooty table, you dance the fruity tooty. She almost built a lager, toasting girls of great beauty.
J'imagine, Didier Van Kovelaert, que vous avez suivi l'affaire. Une énième loi pénitentiaire a du mal à voir le jour, notamment avec le désaveu du Sénat à propos de la cellule individuelle qui était placée dans le cadre de cette réforme. Bref, pour faire court, la France, semble-t-il, a depuis trop longtemps confondu prison et chenil. C'est Robert Badinter, l'ancien garde des Sceaux et actuel sénateur PS des Hauts-de-Seine, qui précédait le reportage de Marie Bernardo. Marie qui promenait son micro dans la zonzon de Liancourt, qui est située dans l'Oise. Alors, pour commencer, parole est donnée à Badinter. Il est au micro de Nicolas Demorand dans son 7-10.
Qu'est-ce qui reste comme dignité humaine un être humain quand on est trois dans une cellule de 9 mètres carrés pendant combien 20 heures par jour? Qu'est-ce qui lui reste? Je me rappelle, quand j'ai installé la télévision dans les cellules, ça a été un tollé, alors il manque plus que le champagne, c'est les trois étoiles. Ce mythe qui persiste. Il y a une loi des reins qui pèse sur les prisons. C'est que dans une société déterminée, on ne peut pas faire progresser le niveau de vie à l'intérieur des prisons, au-dessus du niveau de vie du travailleur ou de la personne qui connaît la condition la plus défavorisée hors les prisons. Dans une démocratie, on ne le supporte pas.
Jonathan est ici depuis un an. Il fait visiter sa cellule.
Actuellement, on est quatre. On a frigo, télé, une douche en cellule assez propre. On a juste deux lits. Donc actuellement, deux qui dorment par terre. Les deux autres, ils ont un matelas chacun pour mettre par terre. Et puis bah, le matin, on remet plus ou moins tout à la va-vite pour essayer de faire un canapé, pour essayer de gagner plus de place. C'est vrai que c'est assez difficile.
Difficile et source de tension. Ici, il y a 400 détenus en maison d'arrêt pour 246 places. Sandrine est surveillante à Liancourt depuis 3 ans.
Il y a souvent des bagarres en cellule ou la violence. Certains préfèrent être deux en cellule, mais pas 3 ou 4. Ça, c'est sûr qu'après, ça devient insupportable.
Pour l'heure, la surpopulation donne lieu à quelques violences. La semaine dernière, un détenu s'est attaqué à coups de poing à un surveillant.
Il y a du grain à moudre, j'imagine, après écoute de ce son. Didier Van Kovelaert, réaction ?
C'est difficile de parler en théorie de ce problème-là. Je suis allé dans les prisons, j'ai des lecteurs en prison, il y a des bibliothécaires qui font un boulot formidable. Je me rappelle un jour à la prison de la santé où j'ai été interviewé par, je vous trouve formidable Mathias, mais un des intervieweurs les plus extraordinaires que j'ai rencontré était en prison pour 5 ans pour braquage. C'était un Russe qui vivait en France depuis 3 ans, qui parlait un français extraordinaire, et qui était venu en France créer une entreprise. Et puis quand il s'est rendu compte qu'avant même même d'avoir engrangé le premier bénéfice, il fallait payer toutes les charges, l'URSSAF, le truc. Il a dit, ah bah c'est comme chez nous, on nous raquette, on crée un truc, donc on nous raquette. Comme il n'avait pas d'argent et qu'il avait engagé des gens, il faisait des braquages le week-end de manière à avoir de quoi payer les racketteurs officiels de l'État français que nous connaissons tous et que nous sommes obligés de payer. Je ne suis pas en train de faire l'apologie du braquage, hein, mais voilà la raison de ce type. Bah, il est en prison, il disait oui, j'ai fait quelque chose de mal, je purge ma peine, j'en profite pour améliorer mon français, pour devenir inattaquable sur le plan de comment truander l'État quand je sortirai d'ici, c'est-à-dire comment truander ce racket officiel-là qui nous pressure, je veux dire, comme les artistes peintres qui, avant même d'avoir vendu une toile, doivent déjà acheter le matériel et payer les maisons des artistes, les URSSAF et compagnie, avant même. Donc, ils n'ont plus de quoi, comme ils doivent payer ça d'abord, sinon ils ont des soucis, ils n'ont plus de quoi acheter leur matériel. Voilà, ça c'est l'absurde dans lequel on vit. Il n'y a pas qu'en prison que l'absurde règne. Tout cela pour dire que ce qui est terrible quand on va en prison, qu'on écoute ces gens, qu'on voit leurs conditions de vie, d'abord on peut pas, c'est très dur de légiférer. Par exemple, l'amendement du Sénat, si j'ai bien compris, ils ont dit il y aura pas systématiquement, il y aura pas une cellule individuelle.
C'est ça.
Si on fait une demande, elle sera pour tout le monde. Or, j'ai rencontré des gens qui disaient mais moi je ne peux pas être seul en cellule. Il y a ça aussi. Je crois qu'il faut, si on veut faire quelque chose pour améliorer les vies dans les cellules, il faut d'abord écouter les détenus et les gardiens. C'est eux qui sont concernés. Et il n'y a pas que ce problème de surpopulation et de mètres carrés réduits qui est terrible, mais il y a aussi, par exemple, pardon de revenir à mon exemple, le jour où j'ai fait les portiques, les différentes cérémonies pour arriver jusqu'à la scène, le petit théâtre, si l'on peut dire, où avait lieu cette rencontre avec mes lecteurs détenus, eh bien, il y a eu 1h15 de retard sur l'horaire prévu parce que, me disaient les gardiens, me disaient les détenus, pardon, les gardiens faisaient exprès de pas ouvrir les portiques, de ne pas... Bon, alors, vous demandez aux gardiens, ils vont dire, oui, on les punit parce que hier, ils nous ont fait ça. Bon. Donc, il y a aussi un problème d'ambiance générale à l'intérieur. C'est une organisation humaine qu'il faut connaître de l'intérieur. Il n'y a pas une prison qui ressemble à une autre. Donc, arrêtons un petit peu de vouloir tout mettre dans des cadres de loi rigides. Voilà, je pense qu'il faudrait une plus grande autonomie de chaque directeur de prison et des moyens, notamment sur... voilà, parce que par exemple, pour constituer une vidéothèque, une bibliothèque, tout ça, bah, nous y mettons tous, les artistes et les producteurs. Voilà,
vous pensez que chaque pays a les prisons qu'elle mérite ?
Écoutez, il y a des pays où les prisons sont comme les maisons de médicales, les maisons de vieux chez nous. C'est-à-dire qu'il y a des investisseurs qui en achètent plein et qui rentabilisent. Bon, est-ce que c'est mieux ou pas ? Il y a des pays où ça marche pas trop mal et d'autres où on se fait du blé sur le dos des pensionnaires, entre guillemets.
Ouais, donc, vous n'êtes pas forcément pour les prisons privatisées, quoi.
C'est vrai, si on trouvait des solutions, mais calmement, sans se bagarrer, c'est pas un problème politique de gauche, de droite. C'est un problème de dignité humaine et c'est un problème où, bien sûr, il ne faut pas oublier les victimes, mais ce n'est pas une raison pour parquer les gens au-delà de l'humanité, quoi.
Alors, à ce moment de l'émission, je me dois de vous demander un peu d'attention. Voici de quoi il retourne. L'équipe du Zapping vous a concocté un sujet en forme de quatre quarts. Premier quart, une question. L'existence du ministère de la Culture est-il à remettre en cause ? Deuxième quart, les fameuses têtes de rat et de lapin ont été achetées par un Chinois de Pékin, mais ce collectionneur a annoncé ne pas vouloir débourser les 30 millions d'euros de l'enchère berger Yves Saint-Laurent. On passe au troisième quart. Nous sommes au bout de la chaîne avec Leslie Play. Leslie Play, c'est une jeune femme qui a fait un livre de sa vie de vendeuse employée au rayon librairie d'une grande surface. Enfin, car il en faut quatre pour faire un entier, c'est le dernier quart et là, à tout président, tout honneur, c'est lui qui va conclure. Un quatre quarts sonore donc, spécial culture française pendant 1 minute et 26 secondes. Go.
Il y a un ancien ministre de la Culture, Jean-Jacques Ayagon, pour ne pas le nommer, le 30 décembre 2008, qui dans Le Monde disait « La question de la suppression du ministère de la Culture se pose ».
À mon avis, non.
Les têtes de bronze revendiquées par Pékin ont donc été achetées par un Chinois, un geste patriote, si ce n'est ce coup monté. Il déclare aujourd'hui ne pas pouvoir ou ne pas vouloir payer les quelques 31 millions d'euros réclamés par la maison Christie's.
Pierre Berger, pas vraiment surpris.
J'imagine qu'ils ont fait pression sur un acquéreur éventuel pour ne pas les acheter.
Qu'est-ce qui se passe si jamais cet acquéreur ne paye pas les deux bronzes ?
Mais je vais les garder chez moi. et nous continuerons à vivre ensemble, elles et moi.
Ce que vous racontez, c'est que ces gens qui sont censés vendre de la culture, en fait, ils vendent ça comme ils vendraient des petits pois.
Voilà, exactement, c'est vraiment ça.
Même quand vous êtes malade, à un moment, vous dites, voilà, il faut que je rentre chez moi, et là, la personne qui est en face, qui a l'air très sympa dans vos dessins, vous dit, ah, mais pas de problème, on va te mettre à la caisse avec une bassine à côté, voilà. Tu pourras vomir.
Si tu veux vomir, on te met une bassine, il n'y a pas de problème, je ne vais pas vomir dans les clients. Moi, j'ai quoi en retour, j'ai rien.
2008 aura été une excellente année pour la culture française. Le prix Pritzker est allé à un architecte français, Jean Nouvel. 3 Oscars ont été décernés au cinéma français. C'est un film français qui a remporté la Palme d'Or à Cannes. Et le prix Nobel de littérature a été attribué à Jean-Marie Le Clézio. Je ne dis pas ça pour une espèce de cocorico nationaliste un peu étriqué.
Didier Van Kovelaert, on va peut-être commencer par la première interrogation. Pour vous, à quoi sert le ministère de la Culture aujourd'hui?
Non, déjà, la question me fait un peu marrer parce que supprimons le ministère de l'Agriculture et les champs de maïs pousseront mieux. Supprimons le ministère de la Mer et elle sera moins polluée. Je veux dire, ça veut dire quoi, ça? C'est quand même un organisme qui a été voulu, rêvé par des gens formidables. Maintenant, il faut réformer des tas de choses à l'intérieur. Mais je ne vois pas pourquoi, à un moment donné... c'est la structure elle-même. Je veux dire, on remplacerait par quoi? Il faut bien qu'il y ait un organisme qui centralise les demandes d'aide, les distributions, les initiatives, les décorations, tout ça. Ça me paraît tellement un faux problème. Parlons juste une chose, et puis bon, j'aime bien quand ça revient sur le tapis, naturellement, le ministre de la Culture est une femme. Ce machisme qu'il y a contre Christine Albanel est un petit peu agaçant, je trouve. Elle a fait une chose formidable dont personne n'a parlé, c'est le prêt pour quelqu'un qui veut ouvrir une librairie. Il faut savoir qu'aucune banque ne prêtait plus à quelqu'un qui arrivait en disant « Moi, je vais ouvrir un commerce. Ah oui, quoi donc, une librairie ?» Non, non, soyons sérieux. Vendez des fringues, vendez de la bouffe, mais pas des livres, quoi, c'est fini. Or, comparativement, il y a beaucoup moins de librairies qui se cassent la gueule que le reste. Et là, il y a un prêt à taux zéro qui a été institué par le ministère de la Culture pour quelqu'un qui veut créer une librairie. Ben voilà, c'est comme ça qu'on peut arriver à sauver en milieu rural ou même dans nos villes. On voit bien tout ce qui disparaît comme les petites librairies autour de nous. Un petit pôle de culture vivante sans être l'ennemi déclaré des grandes enseignes qui font parfois un boulot formidable avec d'anciens libraires individuels, indépendants qui ont dû mettre la clé sous la porte parce qu'ils étaient obligés à passer plus de temps à faire leur comptabilité que de lire des livres.
Un mot sur la vente aux enchères des collections Pierre Berger et Yves Saint-Laurent. Un mot rassurant, indécent?
Ce qui me ferait beaucoup rire, c'est que Pierre Berger est invité, cet enchérisseur chinois, à justement faire cette enchère et après a déclaré qu'il ne paierait pas de manière à garder chez lui ces deux statuettes. Mais je ne pense pas que ce soit la réalité. Non, simplement, si ça devient jurisprudence, c'est-à-dire que si tous les biens qui ont été pillés, qui sont dans nos musées, doivent être restitués, il ne va pas nous rester grand-chose au Louvre. Hein. Le British Museum, qui est quand même aussi qui est un des plus grands pilleurs de l'humanité sur les trésors antiques, a du souci à se faire. Non, c'est une affaire très intéressante si tout à coup elle arrive sur le plan international, mais ça n'arrivera pas à mon avis.
Le livre, du point de vue, je continue à égrener hein, le sujet que nous venons d'attendre pour que vous y réagissiez. Le livre, disais-je, du point de vue de ceux qui sont au bout de la chaîne, les vendeurs de livres, vous trouvez normal que l'objet livre ait le même statut, comme nous l'avons entendu, qu'une boîte de petits pois?
Alors d'abord, ça dépend des livres. Il y a des livres qui méritent d'être vendus comme des petits pois parce qu'ils sont conçus de la même manière. On enferme des mots dans une boîte, on met une belle étiquette, people, et puis voilà. Maintenant, ça dépend du lecteur, ça dépend du livre, ça dépend du libraire. C'est une relation à trois et qui ne disparaîtra jamais. Maintenant, il faut résister. Le grand problème du livre, c'est la durée de vie. C'est déjà l'ouverture, je veux dire, ouvrir les cartons. Il y a des libraires qui n'ouvrent pas les cartons parce que les éditeurs envoient trop de cartons, publient trop. Et quand votre livre... Moi, j'ai la chance d'avoir des lecteurs fidèles. Et mes livres sont attendus. Mais combien de livres ne sont même pas exposés parce qu'on n'a pas ouvert les cartons et au bout de 15 jours, ils retournent chez le libraire. Il y a des mort-nés chez les livres et c'est triste parce que dans ces mort-nés, il y a des vies potentielles formidables qui méritaient d'être transmises et de connaître la diffusion.
Vous êtes aussi fier que le président Sarkozy de notre fameuse exception culturelle française ?
Donc, si l'exception culturelle française, c'est d'obtenir des médailles pour les Français, non, moi, c'est pas ma conception. Je trouve ça très bien, le palmarès qu'il a donné. Mais l'état de la création en France est quand même pas terrible. J'ai parlé tout à l'heure du statut des artistes peintres contemporains. Il faut savoir que tous les ateliers qui devraient être réservés aux artistes français, ou bien les politiques les ont transformés en loft, ou alors ils sont distribués à des artistes étrangers sans aucune réciprocité pour les Français qui eux demanderaient peut-être à aller à l'étranger. Bon, je ne vais pas parler de ma corporation. Moi, j'ai choisi de vivre de ma plume. Donc voilà, il y a une prise de risque. Mais mon papier, il n'est pas cher, hein, acheté. Moi, je n'ai pas besoin de gros investissements. Non, il y a un soutien quand même aux artistes qui est en train d'être mis en place par le ministère de la Culture. Mais c'est long, il faut de l'argent. Évidemment, ce n'est pas la priorité. On a bien compris que la priorité actuelle n'est pas vraiment la culture. Alors oui, si les artistes français gagnent des médailles, et j'ai eu la chance d'en gagner aussi, on vous dit merci, mais ce n'est pas pour moi ce qui fait avancer l'état de la culture en France.
J'imagine que chez Dominique A, tout est soigneusement rangé. Pourtant, lorsqu'il vous invite chez lui, j'imagine toujours, il ne pourrait s'empêcher de dire « Surtout, ne faites pas attention au désordre ». Je l'imagine comme ça. Le paradoxe du A. Dominique A, donc, dans le zapping, il vous interprète « Asta ».
Il fera tous les bars de la terre, il ira où on ne le connaît pas, tanguera sur les fuseaux horaires, fera voyager sa gueule de bois, il boira comme on part à la guerre, sans être sûr qu'on en reviendra, il retrouvera partout un frère, à Shanghai, Séville ou Luanda, il ira, 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 hasta que el cuerpo aguante. Il ira, 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 hasta que el cuerpo aguante, hasta que el cuerpo aguante. Il ne connaîtra pas le silence, autour de lui la nuit hurlera, il tombera en pensant qu'il danse, et que tant que tout tourne, tout va, il n'aura ni remords, ni regrets, ni personne quelque part pour l'attendre. Rien que le bonheur pris sur le fait, sans lendemain pour le lui reprendre. Il ira, 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 hasta que el cuerpo aguante. Il ira, 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 hasta que el cuerpo aguante, hasta que el cuerpo aguante. Tous les bars de la terre, prendra tous les verres qu'on lui tendra, roulera sur les deux hémisphères, va savoir où il se réveillera. Il promènera sur lui le parfum de quelqu'un dont ne lui reviendra ni la voix, ni le regard, ni rien. Et dans le premier bar entrera, il ira, 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 hasta que el cuerpo aguante. Il ira, 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 hasta que el cuerpo aguante. Il ira, 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 hasta que el cuerpo aguante. Il ira, 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 hasta que el cuerpo aguante. Il ne connaîtra pas le silence, autour de lui la nuit hurlera. Il tombera en pensant qu'il danse, et que tant que tout tourne, tout va. Il n'aura ni remords, ni regrets, ni personne quelque part pour l'attendre. Rien que le bonheur pris sur le fait, sans lendemain pour le lui reprendre. Il fera tous les bars de la terre, prendra tous les verres qu'on lui tendra. Il fera voyager sa gueule de bois, il boira comme on part à la guerre. Sans être sûr qu'on en reviendra, sans être sûr. Hasta que el cuerpo aguante, hasta que el cuerpo aguante. Une histoire de l'adultère et non pas l'apologie de l'adultère, oui, contrairement à ce que vous croyez, Nicolas Demorand.
Je n'ai qu'une maîtresse, l'info, comme on dit dans les rédactions.
Et elle vous trompe.
Le zapping de France Inter. France Inter.
Ah, ils s'en payent des tranches dans les matinales de France Inter. Il faudrait mitridatiser nos enfants. Et puis tant qu'à faire, allons-y. Même sort devrait être réservé aux bébés. Menu équilibré à base de CO2, de métaux lourds, chargé en becquerel, en polonium. Pour faire passer le tout, un peu de plomb, de mercure, le tout arrosé de chlore et hop, tout le monde au lit. Dans le 5-7 de Patricia Martin ce matin-là, je vous avoue que nous avons entendu des choses qui nous ont fichu le bourdon. Tout ça, c'est de la faute à un ingénieur conseil du nom de Jean-Marc Jancovici qui a commencé par dire que sur Terre, on consomme plus de pétrole qu'on ne boit d'eau, qu'un ordinateur équivaut à 300 kg de combustible fossile, j'en passe et des meilleurs. Bref, la Terre est aussi bleue qu'une poubelle. Quitte à être recyclable, croyez-moi, j'aimerais que ça se fasse de mon vivant.
La course contre laquelle nous sommes engagés en priorité est celle contre le temps. Comme malheureusement, nous avons seulement quelques années devant nous pour prendre des mesures qui, pour appeler un chat, sont pas très loin d'être des mesures d'économie de guerre. Si je dis les choses très simplement, tant que nous ne sommes pas énormément d'hommes sur Terre et que nous ne consommons pas énormément chacun, eh bien la croissance de l'un ne gêne pas la croissance de l'autre. On a un troisième problème avec les enfants. L'éducation leur laisse penser qu'ils vont chacun pouvoir occuper un emploi de bureau après avoir fait 4 ans d'études à l'université. Malheureusement, c'est pas ça qui va se passer non plus.
On ne pourra pas vivre sans pétrole comme on le fait avec du pétrole et qu'à terme, on sera obligé de vivre sans.
La fin du pétrole, c'est un truc qui n'existe pas. Quand l'humanité mourra, il restera du pétrole extractible sous ses pieds. La crise que nous vivons actuellement est probablement une répétition à petite échelle et avec des conséquences qui, pour le moment, ne sont pas dramatiques, puisque ça n'a pas encore débouché sur la guerre, ça n'a pas encore débouché sur le chaos, mais c'est probablement une conséquence déjà d'une crise de ressources. Cette transition que nous allons devoir vivre, c'est-à-dire vivre avec de moins en moins d'énergie, de toute façon, elle va nous être quelque part imposée. Et en plus, ça va être particulièrement injuste, parce que ceux qui vont régler l'addition ne seront pas ceux qui auront profité de la fête.
En 2005, alors ministre de l'Environnement, Corinne Lepage, suite à un colloque sur les OGM à l'UNESCO, décide d'interdire la culture de ces organismes génétiquement modifiés. Une mesure de droite, c'était Lepage, que Dominique Voynet supprimera par la suite. Suite à cette décision de Voynet, vous, Didier Van Kovelaert, vous décidez de cesser de voter écolo.
Oui, j'avais trouvé ça assez scandaleux. Surtout que Dominique Voynet avait dit on autorise la mise sur le marché des OGM, mais on crée une commission de réflexion d'experts. J'aime bien que ça se passe dans ce sens-là. Donc voilà, principe de précaution.
Je ris jaune. Bon,
non, parce que là, voilà le comble du ridicule de l'antagonisme gauche-droite. La droite prend une mesure écolo extraordinaire. Au nom du principe de précaution, parce que c'est avant même le colloque à l'UNESCO, c'est à Sciences Frontières que Jean-Marie Pelt, au festival Sciences Frontières de Cavaillon à l'époque, que Jean-Marie Pelt et Gilles Éric Séralini ont vraiment expliqué ce qui allait se passer avec les OGM. Ce qui s'est passé, c'est-à-dire que les insectes s'adaptent. Il ne faut pas se croire plus malin que la nature. Le grand problème de fond, c'est que nous sommes devenus les otages de boîtes comme Monsanto, qui tout à coup ont décidé de breveter le vivant et de faire des agriculteurs des otages. Parce qu'au départ, qu'est-ce qui se passait? Les plantes, par exemple, prenons le maïs, la pyrale. Voilà. Mais les botanistes, comme Jean-Marie Pelt vous explique, que la pyrale, qui est une chenille qui bouffe le maïs savait se défendre tout seul en provoquant des sécrétions de phéromones, d'hormones sexuelles, qui attiraient le prédateur de la pyrale, une sorte de guêpe. Mais on a mis du DDT dessus, on n'a pas fait confiance à la plante. Donc le DDT a flingué, à cause de son odeur et de ses molécules, la défense naturelle de la plante. Mm-hmm. Et après, on s'est rendu compte que l'insecte s'adaptait au DDT, à l'insecticide, il fallait à chaque fois augmenter les doses, donc on fabriquait du poison. Donc là, après, on a dit, eh ben non, supprimons le DDT en obligeant la plante à fabriquer ce poison que déjà, elle savait elle-même fabriquer toute seule. Donc vous voyez, on présente comme un progrès, un incroyable retour en arrière d'une manière un peu qui s'apparente à un fascisme végétal. Quoi. Ouais. C'est-à-dire, on va vous obliger, la plante, à fabriquer ça alors qu'elle sait toute seule se défendre. Donc voilà, mais on recommence aujourd'hui les mêmes choses avec le biocarburant. Je veux dire, on va affamer des coins de la planète où les gens...
Alors, c'est ce que j'allais dire, parce que vous m'avez dit juste avant que nous écoutions ce sujet, Mathias, s'il vous plaît, laissez-moi parler, donc je vais agir par mots-clés, mais biocarburant, qu'est-ce qu'il y a qui vous chiffonne, Didier Von Kovelaert, avec...
C'est-à-dire que c'est une manne extraordinaire, maintenant, plutôt que de cultiver des choses qui vont nourrir les gens, c'est-à-dire que les champs servent à produire du biocarburant. Il n'y a pas besoin de prendre les mesures pour les produits destinés à la consommation. Simplement, donc, ça va affamer un peu plus les gens dans les pays
producteurs. Oui.
Producteurs. Et puis, on va déforester encore plus. Donc, on casse l'équilibre végétal. Et ce n'est pas moi qui dis ça. Par exemple, il y a l'homme qui a été le président du Parti des Verts européens pendant très longtemps, Paul Lannoy, physicien nucléaire de formation, qui dit que ce biocarburant va engendrer un déséquilibre sans précédent de la planète. Donc arrêtons de présenter comme des solutions miraculeuses des facteurs aggravants. Il y a d'autres solutions que celle-ci, mais faisons confiance à la nature et surtout rendons la botanique, la science de la terre obligatoire dès le début, pas comme on l'apprend aujourd'hui en disséquant des grenouilles ou en voyant comment fonctionne une plante en donnant des coups de ciseaux. Mais écoutons, lisez ce livre extraordinaire de Jean-Marie Pell qui vient de sortir, qui s'appelle La raison du plus faible. Vous allez découvrir l'intelligence végétale autour de vous. J'en parle un peu dans mon livre de cette intelligence végétale en résonance avec nos passions.
C'est vrai, vous dites même que, justement, pour revenir aux ondes que nous avons évoquées précédemment, que ce sont peut-être les arbres qui vont nous protéger des ondes. Vous restez lucide et confiant ?
Oui.
Très bien.
C'est ma devise, mais l'un ne va pas sans l'autre. Si on est lucide sans être confiant, on se jette par la fenêtre. Et si on est confiant sans être lucide, on vit dans un monde de bisounours et on ne peut pas changer grand-chose.
Je vais faire du copinage, mais je tiens à le faire parce que celui-ci est constructif. Jean-Marie Pelt, que vous venez d'évoquer, Didier Von Kovelaert, Jean-Marie Pelt est tous les samedis avec Denis Chessoux de 14h à 15h, donc à peu près juste avant le zapping d'Inter. Tous les samedis, 14h-15h, Denis et Jean-Marie Pelt sur l'antenne d'Inter. Personnellement, quand mes sœurs pouponnaient leur Barbie, moi j'exerçais des pressions sur le dos de mon Big Jim pour qu'aussitôt son bras monte et descende. Il doit y avoir une explication freudienne dans ce mouvement de bras qui allait de haut en bas au niveau du bassin de la poupée Big Jim. Je vais creuser le truc. On ne connaît toujours pas, ce jour en tout cas, le secret de la beauté de Barbie, mais pour ce dernier sujet du zapping, c'est avec le magazine Interception que Lionel Thompson et Pascal Dervilleux, pardonnez-moi, nous proposent que nous allons pouponner. Voici un reportage, In a Barbie World, signé Emmanuel Davier.
Cette poupée symbole de femme objet, dépensière, séduisante, qui ne pensait qu'à sa beauté, à s'occuper d'elle-même, je n'avais pas envie de mettre ça entre les mains de mes propres filles. Donc, c'est ce qui m'a permis de découvrir l'utilité, d'une certaine manière, de la poupée Barbie.
Quel sens produit Barbie ?
Barbie est très, très ambivalente. Elle est femme-objet, c'est vrai, mais donc elle est dans cette tenue, ces vêtements roses, mais elle y fait sauter des coutures, parce que certaines féministes, par exemple, la portent ou l'ont portée au nu. Pourquoi l'ont-elles portée au nu ? C'est que Barbie ne se plie pas aux injonctions de la société, Barbie ne se marie pas, Barbie n'a pas d'enfant, Barbie a une activité professionnelle qui lui rapporte beaucoup et donc lui permet d'être une femme émancipée. Parce que Barbie n'est ni maternelle, elle n'est pas mère, Barbie, et elle n'est pas enfant non plus. Alors qu'est-ce qu'elle est ?
Salut, quoi de neuf ? Tu veux chanter ?
Would you like to go shopping ?
J'adore !
Après Barbie fait du sport, Barbie chez le psy. Didier Von Kovelaert, ça vous inspire quoi cette formidable mutation, une sorte de signe avant-coureur de la libération de la femme ?
Alors que
les filles avant, elles s'occupaient d'un bébé, maintenant elles s'occupent d'une petite femme.
La seule chose qui m'intéresse dans le cas Barbie, c'est que contient Barbie ? Et ce n'est pas,
que contient Barbie ?
Ce n'est pas une question sexuelle ou l'autre. Non, est-ce qu'il y a des phtalates dans la poupée Barbie ? C'est une question, hein, je ne fais pas le procès du produit.
Explicité.
C'est-à-dire que si un enfant il mord dans la Barbie, il avale quoi ?
Ah.
Parce que les jouets, on voit quand même la toxicité incroyable aujourd'hui des jouets. Puisqu'on était dans la rubrique pub, il y a un magazine formidable qui s'appelle Quelle Santé,
ouais.
qui ne se trouve que par correspondance, mais allez sur l'internet et vous aurez les adresses. Quelle Santé ? Sous-titré Mieux consommer bio. C'est quand même eux les premiers qui ont dénoncé les parabènes, tout ça. Maintenant, c'est devenu à la mode, mais ils étaient absolument les seuls. Ce sont des médecins qui vraiment vont à contre-courant de la mode dans les saletés qu'on nous présente comme sans danger. On apprend d'ailleurs dans le dernier numéro que, par exemple, les ampoules basse consommation, elles sont pleines de mercure et qu'en plus, de par leur forme, elles agissent comme des antennes, les antennes relais, quoi. Donc, un peu de méfiance. Voilà, les jouets qui empoisonnent les enfants, c'est quand même un scandale absolu. Tous les jouets chinois et autres, parce qu'on a dénoncé la Chine parce que c'est pratique, c'est à la mode. Mais en France, sur les produits, je connais un laboratoire qui analyse systématiquement les jouets, c'est assez consternant, quoi.
Vous avez réalisé à n'importe quoi.
Donc mon modèle féminin n'est pas Barbie. Voilà, c'est juste pour terminer, mais
voilà.
C'est pour ça que j'ai mis la question aussi là-dessus, sur les dangers.
Vous avez réussi à concrétiser vos rêves d'enfant ?
Non, j'aime pas concrétiser les rêves, il faut essayer de ne pas les perdre. Mais il y a des rêves qui doivent rester des rêves, comme ça il n'y a pas à payer le prix du rêve, et d'autres qui doivent être toujours inaccessibles pour vous faire avancer. Mais j'ai eu la chance que certains se réalisent et ne me rendent pas malheureux.
Didier von Kovelaert, vous ne pouvez échapper à l'exercice qui suit. Vous allez devoir laisser votre empreinte calligraphiée en noir sur papier blanc. Une trace écrite donc qui sera disponible pour celles et ceux qui vous ont écouté cet après-midi. En effet, votre petit mot va pouvoir être lu dans le cyber livre d'or du zapping de France Inter. On arrive au terme de cette émission. C'est Oxmo Puccino qui scande, qui chante une bien belle chanson, ma foi. 365 jours, un choix France Inter.
Le bruit de la pluie sur le bitume en panne, des essuie-glaces, mon pare-brise pleure, mon humeur durcit la glace. Ceux qui disent le temps c'est de l'argent sont dans l'erreur. Si on met les zéros de côté, pas les heures. Je commande un café avant le texte pondu. Demande mon dû, car j'ai posé avant que le sucre ait fondu. Souvent en avance où le temps m'importe, mon pote. Si tu ne peux être à l'heure, faut que tu te téléportes. Quand on se rate, y'a pas de prochainement. La vie est courte et la mort a tout le temps. Né le matin, majeur à midi, vieux des 20h. L'histoire oublie les héros, pas les vainqueurs. 365 jours puis 700 le temps commence à manquer, tu l'espionnes. Celui qui écoute, peu importe ce qu'on dit, le temps révèle tout. Le temps fait du bien à l'amour, contrairement à ce qu'on pense. Les regrets, c'est quand on se gourre concrètement. Le mauvais temps n'est pas le froid ou le gris. C'est ce qu'on s'était juré, qu'à force on oublie quand j'arrive pas à écrire. Le mauvais temps, celui qui te ronge, la migraine quand tu t'interroges. Les rêves s'éloignent, tu cours à leur poursuite. En vieillissant, de moins en moins de plumes poursuivre. La durée de ma chanson est décroissante. Désolé, je ne sais compter que jusqu'à 60. 365 jours, puis 700 le temps commence à manquer, tu l'espionnes. 365 jours, puis 700 le temps commence à compter, tu te questionnes. Des chiffres et des lettres, des chutes et des litres, des chèques et des contrats. Tout ce que tu pourras et lorsque tu pourras plus, tout va ralentir. Signe que l'avenir devient repentir. Chaque marche passée, l'escalier s'effondre. Alors je saute en chantant chaque seconde. La vie est un beau train avec de sales wagons. Et la chance vagabonde, j'attends pas qu'on m'approuve. Je suis un grand de ce monde, compose avec la lumière en tant qu'homme de l'ombre. 365 jours, puis 700 le temps commence à manquer, tu l'espionnes.
365 jours puis 700 le temps commence à compter, tu te questionnes.
Ça y est, le texte de Didier Von Kovelert est maintenant rédigé en bonne et due forme. Et il sera donc, je vous l'ai dit, scanné et lisible bientôt sur le site Le Zapping de France Inter via franceinter.com. Je rappelle, Didier Von Kovelert, avant de vous quitter, que votre dernier roman, je le rappelle, La Maison des Lumières, c'est son nom. Il est paru chez Albin Michel, La Maison des Lumières. J'ai envie de dire, moi, à tout le monde aussi, qu'il faut lire ce livre, Le Père Adopté.
Qui sort en poche, au livre de poche incessamment aussi.
D'accord,
il est cher de faire des économies. Sinon,
oui.
Mais il vaut mieux acheter La Maison des Lumières en grand aujourd'hui et Le Père Adopté en petit.
On a deux Didier Von Kovelert pour le prix d'un, il y a même un conseiller financier. Je ne veux pas vous quitter, Didier, avant de vous poser cette petite colle. Si je vous dis, c'était tremblant, c'était troublant, c'était vêtu d'un drap tout blanc.
Ça présentait tous les symptômes, tous les dehors de la vision, tous les faux airs de l'apparition. En un mot, c'était un fantôme. C'était Georges Brassens. Bah voilà, c'est...
Je suis flatté que vous l'ayez chanté, parce qu'il paraît que vous la réservez, cette chanson, à votre douche uniquement. Merci.
Oui, bah, je vais aller en prendre une alors. Mais je suis toujours heureux de parler de Brassens et les femmes selon Brassens et les fantômes selon Brassens, c'est tout ce que j'aime.
Je vous souhaite un très très beau week-end. Merci mille fois d'être venu, Didier Von Kovelert. Je remercie toute l'équipe du Zapping avec Michel, avec Ophar, avec Marie-Annick, Marie-Claude et Jean-Michel. Voilà, je dis que les prénoms aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui me prend, c'est de, je sais pas, un petit air de vacances. À tout de suite!